BFM Business. Inside Weekend avec Karine Vernuel.
Bonsoir, bienvenue pour votre rendez-vous d'actualité du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour faire un tour de l'actualité. À la une ce soir, le Brexit, ou plutôt les relations post-Brexit. Et oui, les négociations se poursuivent et elles sont toujours dans l'impasse. Londres et Bruxelles se rejettent la faute. Explications et décryptage dans une dizaine de minutes avec la spécialiste du Royaume-Uni, Sophie Loussoir. Et puis, la rentrée dans la grande distribution et la guerre des prix qui reprend de plus belle. Toutes les grandes enseignes sont dans les starting blocks pour adopter leur offre au changement de consommation induit par la crise du coronavirus. Les explications de l'expert Olivier Dauvert, ce sera à 18h30. Pour l'heure, c'est le journal. Et pour le journal, on accueille donc Marie Vallogne. Bonsoir Marie.
Bonsoir Karine.
Et donc, on commence par ce dossier du Brexit. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, une fois n'est pas coutume, sont dans l'impasse.
Le négociateur européen Michel Barnier dit être déçu et préoccupé par cette situation. Il craint qu'il n'y ait pas d'accord. Le blocage entre les deux parties vient toujours des deux mêmes dossiers, les conditions de concurrence équitable et la pêche. De son côté, Londres reproche à l'Union de rendre les négociations inutilement difficiles. Maëva Lamy.
C'est un Michel Barnier inquiet qui s'est exprimé à Bruxelles. Et pour cause, les délais sont serrés. L'Union européenne et la Grande-Bretagne n'ont plus que 2 mois pour trouver un accord.
Trop souvent cette semaine, nous avons eu l'impression de reculer plutôt que d'avancer. Compte tenu du peu de temps qu'il nous reste, ce que j'ai dit à Londres en juillet reste vrai. Aujourd'hui, à ce stade, un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne semble peu probable.
Pour Michel Barnier, les négociateurs britanniques n'ont montré aucune volonté de progresser, notamment sur 2 sujets fondamentaux, les conditions de concurrence équitable et la pêche. Des sujets sur lesquels Michel Barnier s'est montré inflexible.
Il n'y a pas d'accès à la carte au marché unique, puisque le Royaume-Uni, c'est l'essence même du Brexit, refuse d'accepter les règles et les obligations de ce marché. Brexit means Brexit.
Faute d'accord, avant le 31 décembre, ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliqueront, avec des droits de douane élevés et des contrôles douaniers renforcés. Un scénario dangereux pour des économies déjà affaiblies par la crise sanitaire.
Et nous reviendrons sur tous ces points avec les explications de la spécialiste de la politique et de l'économie du Royaume-Uni, Sophie Loussoir, dans quelques minutes. En zone euro, Marie, les indicateurs PMI sont décevants.
Oui, l'indice mensuel atteint 51,6 points le mois dernier, selon la première estimation. La reprise du secteur privé marque le pas. Elle a surtout été plombée par le secteur des services. L'activité manufacturière, elle, est en meilleure forme. Pour Nouran Scherer, gérante action européenne chez Mans Artis, si ces chiffres paraissent mauvais, l'économie, elle, va de l'avant.
On a eu des niveaux des PMI qui étaient décevants en Europe, mais je dirais qu'il faut souligner peut-être 3 choses. On est quand même sur des indicateurs qui reposent quand même sur des enquêtes d'opinion qui en ce moment sont par nature très volatiles. Et quand effectivement on rentre dans les détails de ces composants, de ces indicateurs, la reprise est beaucoup moins forte dans les services, alors que la composante manufacturière continue d'afficher des fortes hausses des niveaux de production et des nouvelles commandes. Donc ces tendances, finalement, ne viennent pas complètement transformer les analyses économiques ou même les prévisions que l'on pouvait faire, qui voyaient une normalisation de l'activité qui était de toute façon beaucoup plus lente dans les services, du fait, en fait, des mesures de confinement qui ont affecté notamment le secteur hôtelier et le secteur du tourisme, que la production manufacturière qui, finalement, continue de bien s'orienter.
C'est à moi. À l'inverse, aux États-Unis, l'activité des entreprises des secteurs manufacturiers et des services reprennent. L'indice PMI a atteint son plus haut niveau depuis début 2019.
L'Allemagne met entre parenthèses sa politique de rigueur budgétaire.
Le gouvernement va emprunter l'année prochaine pour couvrir son déficit, annonce du ministre des Finances aujourd'hui dans la presse. Le pays fait donc à nouveau une exception à la règle inscrite dans sa constitution qui limite tous les ans son endettement public. Berlin avait déjà emprunté plus de 218 milliards d'euros au printemps dernier. La priorité du gouvernement à la rentrée sera de surmonter la crise. C'est ce qu'indique Emmanuel Macron dans un tweet. Le président a reçu Jean Castex au fort de Brégançon. Ils ont fait le point sur les dossiers en cours. Les deux hommes se retrouveront mardi matin à l'Élysée pour le conseil des ministres de rentrée. Les auto-entrepreneurs sont-ils les grands oubliés du plan de relance? Il sera dévoilé mardi matin. Le président de l'Union des auto-entrepreneurs, François Hurel, déplore l'absence d'engagement du gouvernement à leur sujet. Pourtant, la barre des 2 millions d'entrepreneurs sera franchie très bientôt en France. Il appelle donc à les soutenir.
Je note que le grand absent du discours du plan de relance, c'est l'activité indépendante. Ouais. Je n'ai à aucun moment entendu dans aucun discours qu'on allait s'occuper de ça. Et pourtant, moi j'ai la ferme conviction qu'une partie de notre rebond social sera permise grâce à ces activités indépendantes. C'est une chance, profitons-en. Si nous ne la prenons pas et si nous ne la saisissons pas, on risque d'avoir de très grandes désillusions sociales.
Voilà, François Hurel qui était l'invité de Guillaume Paul dans Good Morning Business ce matin. Dans l'actualité des entreprises, on a le Danemark qui se joint à l'accord signé entre l'Union européenne et AstraZeneca.
Un accord pour garantir la fourniture de doses d'un éventuel vaccin contre le Covid-19. Le groupe pharmaceutique espère le livrer d'ici la fin de l'année. Kepler suspend la couverture de casinos et de métro. Le courtier l'a annoncé à ses clients après avoir reçu des tentatives d'intimidation anonyme à l'encontre de leur analyste financière qui couvre le secteur de la grande distribution. L'autorité des marchés financiers a également été informée de la situation. Amber Capital ne lâche pas le morceau. Après le renouvellement à la tête du groupe pour 4 ans d'Arnaud Lagardère, le fonds activiste réclame la convocation d'une assemblée générale. Il demande le remplacement de 3 membres du conseil de surveillance, dont Guillaume Pépi, l'ex-patron de la SNCF. Les détails avec Laura Cambeau.
Guillaume Pépi dans le viseur du fonds Amber. Il aurait trahi la confiance des actionnaires. L'ancien patron de la SNCF s'était engagé auprès d'eux à soutenir un changement des statuts de l'entreprise pour obtenir une nouvelle gouvernance. Malgré ses promesses, il a voté cette semaine pour le renouvellement du mandat d'Arnaud Lagardère pour 4 ans. Amber et son allié Vivendi poursuivent leur bras de fer pour obtenir une représentation au conseil de surveillance du groupe Lagardère. Ils sont les premiers actionnaires de l'entreprise et représentent à eux deux 43,5% du capital. Pourtant, dans cette société en commandite, Amber et Vivendi ne restent que de simples actionnaires et n'ont pas voix au chapitre. En prenant pied au conseil de surveillance, ils obtiendraient une place indispensable pour faire pression sur la gouvernance de l'entreprise et parvenir à leur fin, l'éviction d'Arnaud Lagardère.
Et on imagine qu'il y aura de nombreuses suites à ce feuilleton Lagardère. Donc, c'est l'une des conséquences du resserrement des conditions d'emprunt, le retour de l'apport personnel.
Alors qu'il n'était souvent même plus nécessaire il y a un an, les banques en font de nouveau une condition sine qua non et le niveau moyen réclamé par les banques a augmenté. Le courtier en crédit, la centrale de financement, a même identifié les régions où les banques sont les plus exigeantes en la matière. Marie-Cœur de Roy.
L'apport personnel est redevenu indispensable pour obtenir un crédit immobilier. Entre la pression du régulateur des banques et l'incertitude économique, le courtier La Centrale de Financement constate une nette progression. Sur un an, le montant moyen de l'apport au niveau national a progressé de 20% au deuxième trimestre, frôlant les 50 000 euros. Dans le détail régional, on découvre que c'est dans le sud-est que le niveau d'apport est le plus élevé. Au premier semestre, il a représenté plus de 14% du montant des prêts en négociation. La région Rhône-Alpes arrive derrière avec 12,8% d'apport, puis vient l'Île-de-France juste en dessous des 12,5%. A l'inverse, c'est dans la région Grand Est que le niveau est le plus faible, 9,3% d'apport en moyenne dans les dossiers montés. Concrètement, explique la centrale de financement, c'est lorsque le marché est tendu et donc les prix élevés, ou lorsque les emprunteurs sont jeunes et donc plus fragiles, que les banques sont les plus exigeantes.
La Turquie accélère ses recherches de gaz naturel en Méditerranée. Le pays a découvert le plus grand gisement de son histoire en mer Noire, d'après le président Recep Tayyip Erdogan. Il estime les réserves à 320 milliards de mètres cubes. Les ventes de vin italien sont en baisse dans le monde. Elles chutent de 4% sur les premiers mois de l'année. C'est une première en 30 ans. Un recul qui illustre les difficultés rencontrées par le secteur de la restauration en ce moment.
Et puis, une date que de nombreux fans attendaient avec beaucoup d'impatience. Après 5 mois d'arrêt, c'est la nouvelle saison de Ligue 1 qui débute ce soir.
Premier match Bordeaux-Nantes. Il sera retransmis sur Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro qui va devoir amortir de lourds amortissements. Paul Marion.
Le modèle économique de Mediapro est-il tenable? C'est la question que se posent de nombreux observateurs de l'économie du sport. Pour diffuser la plupart des rencontres du championnat français, le nouveau venu a consenti des investissements colossaux, comme l'explique l'économiste du sport Pierre Rondeau.
800 millions d'euros pour le football français, seulement 80%, vous l'avez dit. Oui. Donc ça veut dire que l'abonné devra prendre Téléfoot
c'est ça.
Et Canal+. Et en plus, la moitié des droits d'RMC Sport pour la Coupe d'Europe pendant une saison. Donc des investissements très importants, plus tous les investissements structurels liés à l'investissement d'une nouvelle chaîne. Donc nouveaux studios, nouveaux journalistes, nouveaux commentateurs, présentateurs et autres. Donc il faut rentabiliser.
Pour amortir plus d'1,2 milliard d'euros d'investissement, Mediapro propose Téléfoot pour un prix minimum de 26 euros. Son PDG Jaume Roures s'est donc fixé l'objectif très ambitieux de 3,5 millions d'abonnés. Mais même avec un tel nombre de souscriptions, les pertes du groupe se chiffreraient à près de 400 millions d'euros sur un an.
Et puis France O tire sa révérence ce soir. La chaîne dédiée aux Outre-mer va arrêter ses programmes. Il s'agit de l'un des premiers effets du plan de transformation de France Télévisions.
Merci Marie-Marie Valogne. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Et durant toute la soirée, merci à vous. Nous, on va faire un tour sur les marchés. À Paris, eh bien, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,3% à 4896 points. On continue donc sur la baisse. Du côté de Wall Street, on retrouve Sabrina Quagliotti à New York. Comment ça va aujourd'hui?
Eh bien écoutez, toujours aussi bien, toujours en forme ces marchés américains, toujours sur des nouveaux records. Le Nasdaq prend 0,23% actuellement à la mi-séance. On est à 11 290 points. Le Dow Jones de son côté, 27 806 points. C'est une hausse de 0,24%. Quant au S&P 500, l'indice est en petite progression de 0,1%. 3 388 points, toujours porté par des records d'Apple qui a terminé pour la première fois hier de son histoire au-dessus des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est une première pour une société américaine et ça continue, figurez-vous Karine, aujourd'hui puisque le titre eh bien, est en hausse de 3,4%, on est à 489 $. Ça continue aussi pour Tesla qui grimpe encore aujourd'hui de 2,7%, 2055 $. Le titre terminé pour la première fois hier au-dessus des 2000 $. Et puis si on regarde le reste de l'actualité, on apprécie bien sûr la statistique du jour concernant les marchés immobiliers avec eh bien, des ventes de logements qui ont grimpé de plus de 20%, une hausse record de ce côté-là, ce qui permet à cette tendance de rester positive. On a aussi quelques résultats d'entreprise. Karine a commencé toujours par le retail avec Foot Locker qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes et qui annonce le retour de son dividende trimestriel. Le titre Foot Locker est en hausse de 1,21%. Quant à Deere, vous savez, c'est le fabricant d'engins agricole, eh bien le titre là aussi est très bien orienté, une progression de plus de 5%, alors que eh bien, le groupe a publié des chiffres supérieurs aux attentes et a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de son exercice. Donc voilà pour cette séance, une jolie fin de semaine, Karine, avec encore des records pour le Nasdaq et le S&P 500.
N'en jetez plus Sabrina, bon, on veut bien vous retrouver quand même dans une heure pour continuer à faire le point sur cette journée à Wall Street. Merci à vous Sabrina Quagliotti. Allez, restez avec nous, on va voir qu'il y a un peu moins d'euphorie du côté de Bruxelles, alors qu'un nouveau cycle de négociations, de tractations sur le post-Brexit vient de se terminer sans accord. Et effectivement, les choses sont assez compliquées, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec une spécialiste du Royaume-Uni.
BFM Business Inside Weekend avec Karine Vermiol.
Et Michel Barnier ne cachait pas son agacement aujourd'hui. Le négociateur européen du Brexit se dit, je cite, déçu et préoccupé. Un nouveau cycle de tractations vient de se dérouler à Bruxelles. Sur le sujet, il laisse les Européens sur leur faim devant le peu de progrès réalisé. Sophie Loussoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la politique et de l'économie du Royaume-Uni, maître de conférence à l'université de Picardie. Je cite encore une fois le négociateur européen Michel Barnier. À ce stade, un accord avec le Royaume-Uni et l'Union européenne semble peu vraisemblable. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous gâchons un temps précieux. Les Britanniques, finalement, semblent une nouvelle fois jouer la montre, non, dans cette histoire?
Alors, il est vrai qu'il ne reste plus que 2 mois avant l'échéance d'octobre 2020. Et comme vous l'avez dit, Michel Barnier a fait part de son inquiétude et de sa déception à la fin de ce 7e cycle de négociations sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Après 2 jours de négociations avec les Britanniques, Michel Barnier a eu l'impression de faire marche arrière. Son homologue, David Frost, est confiant néanmoins. Le négociateur britannique du Brexit estime qu'un accord est encore possible. Selon lui, l'Union européenne est trop intransigeante sur la pêche.
C'est ça, parce que rappelez-nous ce qui achoppe.
Alors, les 3 pierres d'achoppement sont la pêche. Aucun progrès n'a été enregistré dans ce domaine, car l'Union européenne veut continuer à avoir accès aux eaux territoriales britanniques. La 2e pierre d'achoppement, c'est la réglementation européenne. L'Union européenne veut que le Royaume-Uni continue à obéir à la réglementation européenne. Et ce qui, évidemment, est impossible pour le Royaume-Uni qui a voté pour le Brexit lors du référendum du 23 juin 2016.
Oui, l'idée, c'est si on sort du Royaume-Uni, oui, l'idée, c'est si on sort de l'Union européenne, ce n'est pas de nouveau pour répondre aux règles de l'Union européenne, c'est bien pour faire les choses autrement.
Exactement. Et alors, néanmoins, David Frost a remis un projet d'accord de libre-échange à Michel Barnier jeudi 20 août afin de rompre l'impasse. Et ce document aide à comprendre la position britannique.
Mais ne prend
pas en compte les lignes rouges de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement, de droit du travail et d'aide de l'État pour exempter les Britanniques de droits de douane.
Oui, on voit bien là, ça paraît des points anecdotiques, mais ce ne l'est pas du tout. Finalement, c'est toute la stratégie britannique qui, en sortant de l'Union européenne, a voulu aussi multiplier les accords bilatéraux, les accords de libre-échange. Il en a déjà, le Royaume-Uni en a déjà signé pas mal. D'ailleurs, en revanche, on voit que même avec les États-Unis, c'est problématique et ça ne marche pas forcément aussi bien qu'ils le souhaiteraient.
Non, le Royaume-Uni a signé un accord avec le Japon, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, rentrera dans le pacte transpacifique, mais il est difficile en ce moment d'obtenir un accord avec les États-Unis, car ils sont en période de campagne présidentielle. Et rien ne sera ratifié avant les résultats des élections du 3 novembre.
Et donc là, on retombe sur notre problème de calendrier que vous nous expliquiez tout à l'heure. Normalement, c'est d'ici la fin de l'année. C'est jusqu'à la
Exactement.
Fin de l'année
que les Britanniques... Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Et étant devenu un pays tiers, les négociations sur le futur partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ont pu commencer pendant la période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020.
Alors qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord, en particulier avec l'Union européenne, le 31 décembre, Sophie Lussoirne ?
Alors, il faut espérer qu'un accord soit encore possible. Ça, c'est le premier point. La deuxième possibilité, c'est que en octobre, Boris Johnson, face à la situation et notamment à la crise de la Covid-19, demande de repousser l'échéance du 31 décembre 2020.
Ah oui,
puisque
vous pensez...
nous sommes dans une période inédite.
C'est
les
ça.
Négociations, le premier cycle de négociations a commencé du 2 au 5 mars, mais après le deuxième cycle du 20 au 24 avril, s'est tenu en visioconférence en raison de la crise sanitaire. Et le troisième cycle du 11 au 15 mai a été mené par vidéoconférence. Et il est vrai que si les négociations sont au point mort, c'est aussi à cause du coronavirus qui n'a pas permis aux négociateurs britanniques et européens de se rencontrer physiquement.
Sans doute, effectivement, il y a ces rencontres physiques et aussi Effectivement, cette crise a fortement frappé le Royaume-Uni, hein, qui a subi au deuxième trimestre une chute record de 20,4% de son économie. Sur les six premiers mois de l'année, c'est sa pire récession jamais enregistrée. Puis on a l'impression que, du coup, l'opinion tourne un petit peu également. Alors, non seulement l'économie n'est plus au même niveau, si j'ose dire, et puis l'opinion ne semble plus tellement avoir envie du Brexit. C'est peut-être plus sa préoccupation principale.
Alors, je pense que les Britanniques souhaitent toujours quitter l'Union européenne, mais ils sont préoccupés par la crise liée au coronavirus et ses effets en matière de chômage, en matière de niveau de vie, en matière de consommation. Et puis aussi, ils sont très préoccupés de voir le nombre de morts qu'a enregistré le Royaume-Uni.
Donc, vous pensez quand même que ceci peut peser sur les négociations? Effectivement, vous le disiez, ils n'ont pas pu se rencontrer de visu, ils n'ont pas pu se rencontrer physiquement. Est-ce que ce contexte-là fait aussi que personne ne veut rien lâcher parce que les conditions actuelles au Royaume-Uni sont plus compliquées?
Oui, les conditions au Royaume-Uni sont plus compliquées. L'Union européenne ne veut pas non plus lâcher le morceau face au Royaume-Uni, car elle ne veut pas risquer la concurrence des entreprises britanniques dans un contexte très tendu économiquement, dans un contexte de récession mondiale sans précédent.
Je vous repose quand même la question. Imaginons qu'il n'y ait pas d'accord. On se doute que, comme souvent, Boris Johnson va attendre le tout dernier moment pour qu'il se passe quelque chose. Mais s'il n'y a pas d'accord après le 31 décembre, eh bien, les seules règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, joueront pour ces échanges?
Alors, c'est une possibilité qui avait été avancée par les partisans du Brexit. Et ils avaient dit qu'ils préféraient encore les règles de l'OMC à un mauvais accord. Il est vrai qu'aujourd'hui, Michel Barnier a déclaré que le Royaume-Uni avait décidé de perdre les avantages du marché unique, que c'était son choix, que ce n'était pas celui de l'Union européenne. Et surtout, je crois que l'Union européenne a à cœur de défendre les valeurs qui sont les siennes, afin de dissuader un autre pays membre de l'Union européenne de quitter le club des 27.
Effectivement, pour pas donner d'idées aux autres, mais ceci dit, peut-être que la crise de la Covid-19 aura fait que les uns et les autres se sont aperçus de la nécessité de se rassembler en cas de coup dur.
Il est vrai que ce plan de relance des 750 milliards d'euros obtenus au mois de juillet a montré la solidarité européenne après des mois de tergiversation face à la crise sanitaire.
J'ai une dernière question, Sophie Lourzouarn. Il y a aussi des divergences sur l'ouverture ou la fermeture des frontières entre les différents pays de l'Union européenne et encore plus avec le Royaume-Uni qui a décidé il y a quelques jours, d'imposer une quarantaine à tout visiteur qui revenait de France. Ça a été une véritable ruée vers retour à la maison pour les Britanniques qui étaient en France. Brittany Ferries, par exemple, est l'une des sociétés qui accuse le coup, qui doit annuler énormément de traversées et qui perd encore là du chiffre d'affaires. Est-ce que ceci ajoute peut-être à la tension des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne?
C'est certain, mais je pense que c'est aussi une stratégie de Boris Johnson aujourd'hui qui a été accusé de ne pas avoir pris de mesures suffisamment tôt pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, face à la montée des cas en Espagne, en France, mais aussi en Autriche, en Croatie, il a décidé de fermer les frontières et d'imposer une quarantaine ou une quatorzaine aux visiteurs britanniques qui étaient dans ces pays.
En tout cas, pour ce qui en est du Brexit, on attend donc un 8e round de négociations. Pour l'instant, encore une fois, on s'est quitté sans accord. On vient de le raconter avec vous, Sophie Louswarne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, spécialiste de la politique et de l'économie du Royaume-Uni, maître de conférence à l'Université de Picardie. Merci à vous. Et on continue notre tour du monde avec notre chroniqueur, notre éditorialiste Benaouda Abdennaïm. Aujourd'hui, il nous parle de ce régulateur chinois qui entend préparer la finance nationale à être coupée du dollar.
BFM Business, le monde qui bouge. Benaouda Abdennaïm.
Ceux qui, à Pékin, supervisent les affaires financières travaillent à l'hypothèse où Washington couperait les ponts. Le numéro 2 de la régulation, un ancien conseiller du président Xi Jinping, admet une vulnérabilité. Il l'a fait à l'occasion d'un forum en ligne organisé au mois de juin par un grand média économique privé chinois. Le superviseur des marchés s'attend à ce que son pays puisse subir un train de sanctions américaines comparable à celle qui frappe la Russie depuis 2014. Nous devons nous préparer tôt, de vrais préparatifs, je cite, pas seulement des préparations psychologiques. En clair, il faut échafauder une alternative précise au cas où les États-Unis écarteraient la Chine de l'architecture mondiale de paiement en dollars. C'est un quotidien de Hong Kong qui l'a rappelé. Le réseau interbancaire SWIFT et la chambre de compensation CHIPS, contrôlée par les Américains, constituent ensemble l'épine dorsale du commerce et des investissements internationaux. Du point de vue du régulateur financier chinois, il s'agit d'accélérer nettement le pas dans l'internationalisation de la monnaie nationale initiée en 2009. Il explique que le pays disposera d'une plus grande capacité à résister à un découplage imposé par Washington. Malgré tout, à ce même forum, un ancien gouverneur de la Banque centrale a mis en garde contre toute précipitation à libéraliser la devise. La condition indispensable que pose l'économiste en chef d'une banque de Shanghai, c'est de lever toutes les barrières à l'investissement dans les actifs libellés en yuan. Mais cela risque aussi de provoquer des remous économiques et financiers internes dont nul n'est encore en mesure précisément d'évaluer les éventuels dommages. C'est tout le propos d'une étude très documentée publiée récemment par l'un des principaux centres d'études stratégiques de Washington. Donner la priorité à l'internationalisation du renminbi obligera, je cite Pékin, à prendre des engagements sérieux en faveur de réformes économiques qui pourraient exposer le pays à une plus grande instabilité financière. En attendant, les observateurs chinois veulent encore croire que les Américains, quelle que soit leur détermination, ne se risqueront pas à déclencher un processus de sanctions envers la deuxième économie mondiale, comme ils ont pu la faire avec la 11e, c'est-à-dire la Russie.
Et voilà, restez avec nous dans un instant sur BFM Business, un rappel des titres.
BFM Business. Inside Weekend. Avec Karine Vergnol.
Et avec la rentrée qui approche, c'est aussi la rentrée de la grande distribution, puisque pour la rentrée, c'est une rentrée plus que jamais sous le signe de la guerre des prix. Olivier Dauvert, bonsoir.
Bonsoir Karine.
Expert grande consommation, vous faites le tour des grandes surfaces, même en plein été. Tous s'engagent, vous avez pu le voir, pour le pouvoir d'achat en cette rentrée scolaire. Alors c'est vrai qu'on avait pu dire, après le confinement, que désormais ce qui comptait, c'était les circuits courts, les produits locaux, la qualité, le bio. Mais en fait, c'est le prix, toujours le grand gagnant.
Et oui, parce que finalement, on s'attendait à ce qui est un après différent de l'avant. Personnellement, ça fait des mois et des mois que j'explique et croire à une théorie que j'appelle celle de l'élastique, qui veut dire que même quand on le déforme, quand on lâche l'élastique, eh bien, il reprend peu ou prou sa forme initiale. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans le commerce, c'est-à-dire que ce qui était en vigueur avant est en train de se réinstaller, parfois lentement, mais très sûrement, dans le monde d'après, à commencer par l'agressivité sur les prix, parce qu'on sent bien en ce moment que tout le monde fourbit ses armes et que toutes les enseignes ont surtout compris que la demande des consommateurs, parce que c'est quand même ça qui est le déterminant majeur, eh bien elle sera encore plus orientée que jamais sur le prix, le pouvoir d'achat, la compétitivité des offres.
Comment on le voit ? On le voit déjà dans les résultats des différentes enseignes. Hein, au cœur de l'été, c'est quoi ? C'est toujours Leclerc en tête ?
Alors, c'est Leclerc qui est sorti gagnant de la période du coronavirus. Après un début de période qui lui avait été négatif, comme à tous les hyper, puisque en mars-avril, Leclerc perdait des parts de marché. Il les a rattrapés et en a gagné même beaucoup plus que ce qu'il avait perdu sur la période de mai et de juin. Juillet a aussi été une bonne séquence pour Leclerc, comme elle l'a été pour Intermarché. Ce sont les deux grands gagnants, c'est-à-dire encore une fois les indépendants. Et dans le cas de Leclerc, celui qui a la meilleure image prix, parce qu'on sent bien aujourd'hui que tout ce qui peut constituer une forme de valeur refuge au du client rencontre un succès commercial. On le voit dans les enseignes, c'est Leclerc qui progresse le plus en ce moment. Et on le voit aussi dans les typologies de produits avec le grand retour des marques de distributeurs, tout simplement parce qu'elles sont moins chères que les grandes marques nationales et que, à ce titre, elles constituent une forme de valeur refuge pour le budget des ménages.
Et les autres grands gagnants, on imagine, c'est les discounters. Enfin, on les appelle plus comme ça, mais les Lidl et consorts.
Oui, ben, globalement, on se rend compte que le client cherche la réassurance prix que peut apporter une enseigne. Ben, à ce jeu-là, des enseignes comme Lidl, au même titre que Leclerc, tire leur épingle du jeu. Mais on le voit aussi d'ailleurs déjà, il suffit de se balader en magasin pour s'en rendre compte, c'est le grand affluent des enseignes comme Action ou comme BM qui continuent à ouvrir des magasins, même en plein cœur de l'été. Ils ont ouvert avant-hier un très grand magasin à Rennes. Toutes ces enseignes qui promettent du prix avant toute autre chose, elles rencontrent l'écho des consommateurs, elles ont l'oreille des consommateurs plus que jamais.
On a vu Normal aussi, par exemple, hein, qui arrivait en province, effectivement.
Normal qui vient d'ouvrir son premier magasin dans le sud et qui, d'ici à la fin du mois de septembre, aura doublé son parc. Alors, ce n'est pas encore très ambitieux, puisqu'on passe de 5 à 10, mais quand même, tout ça en quelques semaines.
Effectivement, c'est le prix d'abord. Et est-ce que ceci explique aussi une offre qui se déploie, dont on vient de parler ces derniers jours, c'est la vente de produits d'occasion par la grande distribution. Le dernier à dégainer, c'est Système U, mais on a vu que chez Carrefour, c'était carrément des magasins entiers.
Alors, l'occasion, c'est typiquement quelque chose dont on peut, en réfléchissant à peine un peu, se dire à l'avance que ça va marcher. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux intérêts sur le sujet de l'occasion. Il y a un intérêt sociologique. Ça répond à une forme de demande d'une partie des consommateurs pour une consommation plus responsable. Et puis, il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt économique parce que, pour certains autres consommateurs, ça répond à une demande d'accessibilité avec des produits que je ne pourrais pas m'offrir neuf, mais que grâce à l'occasion, je peux m'offrir. Donc, quand vous avez un phénomène commercial qui repose à la fois sur un levier sociologique et un levier économique, vous pouvez vous dire qu'il est promis un certain succès. Donc aujourd'hui, on a Leclerc qui est parti le premier là-dessus. Il a ouvert ses premiers magasins il y a déjà 2 ans. On voit aujourd'hui qu'il y a Système U, vous l'avez dit, il y a aussi Carrefour, il y a aussi Géant, il y a aussi Cora. Et on commence à voir là spécifiquement sur le marché du textile, Auchan qui déploie des corners Patatam, qui est une enseigne, qui est un site internet spécialisé sur la seconde vie du textile. Et il y a désormais aujourd'hui 30 hypermarchés Auchan qui proposent ce corner de vêtements d'occasion. Donc oui, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et je rajouterai, c'est une lame de fond. Un commerçant normalement constitué ne pourra pas faire l'économie demain d'avoir une offre d'occasion, parce que quitte à subir un phénomène qui existe, autant faire semblant de l'organiser. Et c'est finalement ça qu'ils font, parce que les consommateurs n'ont pas attendu Auchan, pas attendu Carrefour pour avoir des circuits d'occasion. Le Bon Coin, évidemment, en est probablement l'archétype.
Ah ouais, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Il faut récupérer ce qui passe par d'autres flux et ce qui échappe finalement à la grande distribution. Et justement, vous parliez à l'instant de ce qui se passe sur le digital, sur Internet. Il y a quand même cet engouement aussi pour le drive. Est-ce que là, ce qui s'est développé aussi durant ces dernières semaines, avec le confinement et ensuite, la vente de produits alimentaires sur Internet continue à croître ? Ça s'est vraiment installé ?
Alors, oui, et si on veut le résumer d'une manière peut-être un peu provocante, ce fichu virus est finalement le meilleur ambassadeur du drive, parce qu'il a permis à des consommateurs qui ne connaissaient pas le drive de le découvrir. Et là aussi, quand on réfléchit tranquillement, que voit-on ? On voit une forme de vente qui propose les mêmes produits que les hypermarchés, au même prix, le service en plus. Il faudrait vraiment être un idiot fini pour ne pas comprendre que ça ne peut que se développer. Donc, depuis longtemps, et j'en fais partie, je pense que on est quelques ambassadeurs à estimer que le drive a un boulevard lui aussi devant lui, parce que Leclerc Drive, Auchan Drive, Chrono Drive et les autres arrivent à proposer du prix magasin avec du service. Et donc, forcément, c'est une amélioration de ce qu'on peut appeler la proposition de valeur. Simplement, il y avait encore des consommateurs qui avaient hésité à franchir le pas, à tester, à essayer, parce que l'achat à distance, et notamment pour l'alimentaire, c'est quelque chose qui pouvait faire peur à certains consommateurs. Ben, pendant la crise, le virus leur a fait plus peur encore, et ils ont accepté de passer au-dessus de cette crainte-là. Ils ont acheté en ligne, acheté en drive, ils ont vu ce que c'était, ils ont vu les bénéfices qu'il y avait à acheter en drive, et même si aujourd'hui les taux de croissance sont évidemment moins forts qu'ils ne l'étaient au cœur de la crise, il n'empêche que le drive progresse plus rapidement qu'avant. On est aujourd'hui entre 30 et 40% de progression, alors que sur les 2-3 dernières années, on était plutôt à 10. Donc, le coronavirus a été un formidable ambassadeur pour le drive et son développement.
Et pour boucler la boucle, peut-être aussi parce que les enseignes commencent à faire des efforts sur les prix sur le drive.
Oui, parce qu'il y a une bataille qui se livre offline, c'est-à-dire en magasin, mais qui se livre aussi entre enseignes online, ne serait-ce que parce que pour un consommateur, c'est très facile de comparer les prix grâce au drive, parce qu'il a accès au prix avant même de se rendre en magasin. Vous pouvez, même si vous avez, j'allais dire, le vice au corps en matière de prix, vous pouvez vous amuser à faire des paniers chez Leclerc, chez Système U, chez Chrono Drive, chez Auchan Drive, avec qui vous voulez. Vous pouvez même savoir, avant de vous déplacer, qui est le moins cher. Et le drive a cette vertu-là en donnant les prix avant, qu'il exacerbe la compétition sur les prix. Et donc, c'est finalement pas surprenant que les enseignes rentrent dedans comme des morts de faim et se livrent une bataille terrible, online comme offline.
Et ça, je sais que vous le faites, Olivier Devert, parce que vous regardez tout ça de très près.
Parce que j'ai le vice au corps.
C'est ça. Très rapidement, pour terminer, vrai ou faux, les masques obligatoires seraient une aubaine pour la grande distribution. Les ventes de masques auraient déjà généré 175 millions d'euros de chiffre d'affaires à la grande distrib en 10 semaines. Vous avez 30 secondes pour répondre
à ça. Déjà, Karine, vous me faites plaisir, vous ne mélangez pas, je n'attendais pas moins de votre part, évidemment, le chiffre d'affaires et le bénéfice, parce qu'on a quand même entendu certains politiques nous expliquer que la grande distribution avait gagné 200 millions de profits sur les masques. Donc, ils les ont vendus à prix coûtant pour la quasi-totalité, parce qu'ils les avaient achetés très cher en avril, mai, juin, quand ils avaient le droit de les commander. Donc, ils les ont revendus à prix coûtant, autant dire qu'ils n'ont pas fait de bénéfice. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est que d'un côté, on a le prix des masques qui baisse parce que la capacité de production en Chine progresse et qu'ils arrivent désormais par bateau et non plus par avion. Donc, on n'est plus du tout sur des achats autour de 55 centimes au prix de gros, on est plutôt sur des achats à 20, 25 centimes. Donc, ils vont baisser au fur et à mesure que les stocks vont se reconstituer à ce niveau-là de prix. Et puis, je fais le pari, et qui est encore une fois vraiment pas difficile à prendre, c'est que dès lors que c'est un produit quotidien, obligatoire dans certains cas de figure, ça va devenir un prix d'appel. Et vous connaissez comme moi ce qui se passe sur les prix d'appel quand les distributeurs s'en emparent. Ils sacrifient leurs marges pour améliorer leur image prix. Et que ça plaise ou non à certains, c'est comme ça. Le masque, demain, va devenir un produit d'appel. Il y aura sur le masque la même baston, pardonnez-moi d'être familier, qu'il y a sur les carburants, parce que ben, c'est la même chose, un produit quotidien et qui coûte cher si on n'y prend pas garde. Essence, masque, même combat.
Merci beaucoup à vous, Olivier Devert, expert grande consommation. Merci beaucoup. On continue à retrouver toutes les infos sur votre blog, puisque vous suivez cette actualité de très, très près. Et on vous retrouve également souvent le week-end dans Innover pour le commerce, l'émission du retail, où on retrouve également Rodolphe Bonaz, PDG de Seacom, qui nous emmène découvrir des innovations à travers le monde. En février, il nous a fait découvrir à Londres le tout nouveau showroom de Samsung.
BFM Business, innover pour le commerce, Rodolphe se démarque.
Rodolphe Bonaz, PDG de Seacom, est avec nous. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Karine.
Alors cette semaine, vous nous emmenez à Londres, chez Samsung. Mais alors, vous nous dites en bon français, this is not a shop.
Oui, this is not a shop. En effet, ils se sont installés pour nous présenter un magasin qui n'en est pas un. Hein, c'est vraiment la promesse. On est ici à King Cross, on est au centre commercial de Coldrops Yards. Et ils se sont installés dans la partie la plus magnifique du centre, Karine, pour nous présenter un espace Samsung Samsung, absolument révolutionnaire. 2000 mètres carrés, tenez-vous bien, totalement ouvert, avec des zones ouvertes, avec des logiques de personnalisation, j'en parlerai tout à l'heure, mais ces 2000 mètres carrés, c'est une sorte de Guggenheim de la technologie, j'avais jamais vu ça. Alors, tout est dédié à l'univers, à l'expérience Samsung, vous l'avez dit, this is not a shop, ça veut dire quoi? Pas de stock, pas de vendeur, pas de vendeur, mais vous pouvez quand même acheter les produits, ils vous seront bien sûr livrés chez vous. Première expérience, c'est le cockpit connecté. Vous savez, ces voitures qu'on a ici dans le magasin.
Mais c'est quoi, c'est une expérience 3D?
Alors, non, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, vous savez, sorte de grandes courses, circuits de voitures, etc. Non, là, Samsung va nous présenter la voiture du futur, Karine. Ça veut dire quoi? C'est un espace qui modélise à l'intérieur de voiture, reconnaissance vocale pour allumer la radio, régler le chauffage, reconnaissance faciale pour voir, bien sûr, si vous vous endormez, si jamais vous ne suivez plus la route, et surtout, voiture connectée à d'autres produits Samsung, je l'ai vu, en particulier le réfrigérateur connecté Samsung, qui vous permet de votre voiture de savoir ce qui vous reste dans votre frigo. Alors le frigo vaut quand même 4 500 €, mais c'est une animation incroyable. Alors vous avez aussi l'autre élément de ce lieu, c'est l'écran. Il y a au milieu un écran de 10 mètres de large et une grande salle dans laquelle ils donnent des conférences, des cours de sport, de fitness, de yoga. L'écran, alors ça c'est génial Karine, l'écran se transforme en mur à taguer digital. Oui, vous pouvez taguer, vous prenez votre portable, le Galaxy, vous avez un support qui représente une sorte de bombe à taguer et vous taguez digitalement ce mur de 10 mètres. Je vous jure que c'est vrai. C'est dingue. Bien sûr, vous avez les coworking, les cafés, un studio d'enregistrement, du DJ, un espace lounge VIP. Ça aussi, c'est très très bien. Vous avez l'impression d'être de là. Et je vous dis, dernier élément, ils donnent des cours et ça s'appelle « This is not a school », des cours pour des jeunes. Malheureusement, je ne suis pas assez jeune pour y participer, une semaine pour se familiariser avec la technologie, les environnements, l'univers 3D, l'intelligence artificielle, bref, j'en passe et des meilleurs. Merci Samsung.
BFM Business Inside Weekend avec Karine Vergniaud.
Et dans un mois, figurez-vous, un film français pourrait repartir avec une statuette aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision. Ce film est un documentaire d'immersion virtuelle au cœur de Notre-Dame de Paris. Et on peut le découvrir en ce moment chez FlyView à Paris. Antoine Acarrière, bonsoir.
Bonsoir Karine.
Vous êtes le directeur général de FlyView. FlyView, c'est quoi? C'est un centre de réalité virtuelle, c'est ça?
Oui, c'est un site de loisirs culturels qui se trouve à l'Opéra, 1000 mètres carrés, qui est assez grand, et qui propose deux types d'expériences, soit du survol avec un simulateur, on monte sur un jetpack et on emmène les gens au-dessus de Paris, en visite Paris, soit une téléportation dont fait partie Notre-Dame, qui est en fait un moyen d'aller à l'intérieur des monuments, de découvrir autrement les villes.
Et donc, vous venez de mettre en avant Notre-Dame de Paris, c'est un film qui s'appelle Revivre Notre-Dame et la cathédrale qui a été fermée au public après, bien sûr, l'incendie. Et ben là, on peut y entrer.
Oui, on y rentre. Alors, c'est très surprenant parce que le film, en fait, donc on a fait ça avec les studios Targo. Le film était tourné 3 mois avant l'incendie et 3 mois après l'incendie, on a pu revenir dedans. Et avec les mêmes axes de caméra, on propose une immersion complètement incroyable parce qu'en fait, on a repris un sorte de fondu enchaîné. On a la procession qui passe sur ce marbre qui a été frappé par la nef qui est tombée et qui a fracassé casser ce marbre. C'est assez étonnant, c'est assez émouvant, c'est un peu intimiste. Ça n'est pas la même chose que le survol, où là, on est plutôt dans l'émotion, dans la sensation. On est plutôt là dans l'intérieur. On se parle et on repart avec des questions. C'est assez intéressant.
Est-ce que ça vous a fait venir, parce que vous l'avez lancé au moment de la réouverture, à la fin du confinement.
Oui.
Donc, c'était quoi, début juillet ?
11 juillet.
11 juillet. Est-ce que ça vous a fait venir davantage de touristes ? Parce que c'est compliqué en ce moment sur Paris.
Alors, c'est vrai que nous, on a 3 sources de fréquentation. La fréquentation des Franciliens, avec monsieur les Parisiens, la fréquentation des touristes français et les touristes étrangers. Alors, touristes étrangers, on n'en parle pas cet été. Touristes français, un peu moins que ce qu'on pensait. Ils sont restés en local. Je sais que aujourd'hui, les chiffres du SNELAC sur le mois de juillet parlent
de...
Le SNELAC, c'est le syndicat qui gère en fait l'ensemble des sites culturels, loisirs, par l'attraction.
D'accord.
Et qui sort en fait un chiffre à peu près de 9% de baisse de fréquentation sur l'ensemble de la France et à peu près 8% de chiffre d'affaires en moins. Sur les sites parisiens, on est plus que ça, parce qu'on est malheureusement très dépendant, en tout cas des touristes sur cette période-là. Et donc effectivement, nous, on est largement en dessous de ça, parce que bon, d'abord, on avait aussi réduit notre capacité par rapport à l'application des normes du Covid. Et donc, on voulait faire en sorte de pouvoir respecter absolument tous les engagements qu'on a pris vis-à-vis du SNELAC, de TCP et des différentes normes. Mais au final, on a effectivement beaucoup plus souffert à Paris qu'en province. Et je sais qu'il y a des lieux qui ont très bien fonctionné.
Mais oui, 1600 visiteurs par jour avant le coronavirus, aujourd'hui, c'est combien?
Alors, 1600, c'est notre capacité totale. C'est-à-dire que c'est infaisable. D'abord, pour les équipes, ça serait un enfer. On est à peu près une trentaine de personnes qui travaillent sur le centre à Paris. Donc aujourd'hui, on a une fréquentation qui est autour de entre 400 et 600. Ça va fluctuer. Mais on pourrait avoir une fréquentation Covid, pardon de dire ce terme, qui pourrait aller jusqu'à 900. Donc on est en dessous et on souffre de ce manque de touristes français. Les touristes étrangers, on savait qu'ils ne seraient pas là. C'est les touristes français. On a d'ailleurs réadapté notre communication pour pouvoir faire de la géolocalisation et pouvoir travailler avec les personnes qui étaient bien à Paris. Et ils sont malheureusement moins nombreux.
Et oui, c'est ça l'histoire. Combien ça coûte? Vous n'allez pas me le dire, je le sens, Antoine Lacarrière, mais un film comme celui-là?
Alors, ça dépend en fait comment vous le produisez. Si vous produisez un film vous-même, vous avez effectivement un coût, une durée qui est assez longue. Dans le cadre du Survol, c'est un film qu'on a produit nous-mêmes parce qu'il fallait mettre des caméras spéciales qui filment.
Donc ça, c'est le Survol de Paris.
Voilà. On peut découvrir. Et là, il faut simulateur, c'est un peu compliqué. Quand on a travaillé avec les studios Targo, ils avaient déjà créé le film, mais n'était pas la version que nous on propose. On a dû la rendre un peu différente pour que l'expérience client puisse permettre d'avoir un pré-show, un show, un post-show, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une histoire. On n'est pas juste à rentrer dans le film et puis à vous mettre en face de vous les images des interviews. Il faut faire comprendre les choses. Donc, on a retrouvé des images de l'incendie, par exemple, sans que ça soit dramatique. On a eu la chance d'avoir des images qui étaient de très bonne qualité. Et ça raconte une histoire. Et justement, à la fin, on sort un peu avec des questions. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que ce n'est pas juste une expérience où on est devant des gens statiques. On
se pose des questions. Donc, je vais vous poser la question autrement. Combien il faut de visiteurs pour rentrer dans vos frais avec un film comme On revivre Notre-Dame?
Alors, dans le cadre de Notre-Dame, c'est un partenariat avec les studios Targo. Donc, en fait, on a un accord de coût et d'acquisition qui nous permet d'avoir moins de frais à payer. C'est ce que je vous disais par rapport à un film de survol. Le prix lui-même, c'est un pourcentage de chaque fréquentation qui sera donné aux studios Targo.
Mmh, effectivement, les studios Targo qui, en plus, je crois, ont un autre film qu'ils vont présenter à ces Emmy Awards.
Hein. Absolument.
C'est ça, vraiment révélateur. Ça sera dans un mois. Alors, j'imagine que ça sera de façon virtuelle encore, mais peut-être que ça va.
Je ne sais pas exactement comment ils vont faire ça.
On va voir comment ça se passe. Fort de votre expérience, Antoine Lacarrière, vous êtes passé par Disneyland, par Croisière de France, par le Futuroscope. Il me semble, et au vu de l'évolution de la consommation touristique que l'on voit post-Covid, est-ce qu'à votre avis, la réalité virtuelle va-t-elle révolutionner nos vacances?
Alors, je pense qu'elle ne va pas révolutionner au sens où ça ne va pas remplacer vos vacances. Ça va les améliorer fortement. D'abord, vous allez pouvoir les préparer avec un casque comme celui-là. Je vous présente les différents sites que peut-être vous allez pouvoir visiter. Donc, peut-être que votre partenaire de voyage ou tourisme vous présentera en amont les lieux que vous voulez visiter. Je pense qu'on aura moins...
Je crois que le Club Med fait déjà ce genre de proposition.
Oui, certains croisiéristes le font aussi, ou en tout cas vont le faire. On a, je pense, passé le tourisme de quantité. Maintenant, il faut le tourisme de qualité. Avant le Covid, il existait encore des programmes où des gens faisaient 7 capitales européennes en 7 jours. Donc, vous vous rendez compte le truc que c'est. Donc, on ne va pas remplacer, on va compléter. D'abord, on vous propose une offre qui vous permet de comprendre un peu mieux ce qu'il y a à faire. Et après, on vous propose des images que vous ne pourrez jamais voir. On vous emmène dans certains films, dans des lieux que vous ne pourrez jamais
visiter. Ils ne sont pas ouverts au public.
Mais non. Donc c'est ça, il faut que ça amène un plus. C'est un plus,
voilà. Le problème à Paris, c'est qu'il n'a pas beaucoup plu non plus. J'imagine qu'aussi, vous avez plus de monde les jours de pluie.
Ah non, alors, oui et non. Il fait très frais. Moi, j'ai un site, en fait, le site que nous gérons. En plus, en ce moment, on en parle beaucoup. C'est un site où l'aération est une aération où on pompe vraiment l'air de Paris. On la traite pas, donc on est complètement 100% free pour Covid. Et on est conditionné. Donc en fait, les gens, quand il fait très chaud, viennent plutôt chez nous, un peu comme au cinéma.
Est-ce que vous allez en ouvrir à d'autres endroits, du coup, de
Paris? Alors, c'est le but, effectivement. Le but, c'est après de voir comment on peut se développer et essayer d'avoir la possibilité de créer une franchise, une chaîne qui permette après aux personnes... Alors, au départ, on avait vraiment fait ce site en pensant qu'il y aurait plus de touristes étrangers. Et on a découvert qu'en fait, ça plaisait beaucoup aux Parisiens, aux Franciliens, aux touristes français. Donc, on a changé un peu notre angle de vue. Et d'ailleurs, c'est un petit peu une des réactions qu'on a vis-à-vis du Covid, mis à part toutes les normes qu'on a changées. C'est d'arriver à projeter un petit peu ce qui va se passer sur la manière dont va être consommé justement les différents produits un peu plus tard. Et on va essayer, donc du coup, par exemple, de proposer des produits un petit peu moins Paris, puisque aujourd'hui les trois films parlent beaucoup de Paris. C'est Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Et ça donne la possibilité aux gens peut-être d'aller un peu faire leurs vacances. Et je ne vous dis pas quel est le film qu'on va sortir en octobre, mais
c'est
on sortira de Paris.
Dire, non,
non. On sortira de Paris et il y aura la possibilité de visiter un peu des lieux qui existent et qui sont peut-être un peu moins accessibles. Et c'est peut-être une forme de tourisme qui répond à votre question. Mais ça ne va pas remplacer totalement.
Non, bien sûr, mais c'est peut-être la mise en bouche, si j'ose dire, avant de partir.
Exactement.
Antoine Lacarrière, directeur général de FlyView, merci beaucoup à vous.
Merci.
On regardera alors d'ici un mois si ce fameux film que vous proposez en ce moment, Revivre Notre-Dame du studio Targo, recevra un Emmy Awards, les Oscars de la télévision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Vous faites donc partie de ces entreprises qui résistent, dont on parle tous les jours sur BFM Business, grâce notamment à Pauline Tadevin, qui allait en Isère découvrir la manufacture Histoire de Pont, une entreprise octogénaire qui fournit aux plus grandes marques de luxe des catalogues, cartes de vœux ou livres de qualité. Reportage.
Rassurer les consommateurs, c'est l'objectif de très nombreuses entreprises au moment d'amorcer la reprise. C'est ce à quoi s'attelle la manufacture d'Histoire de Pont, imprimerie familiale née en 1935, basée en Isère. Elle travaille pour les plus grandes marques de luxe, restaurants et hôtels prestigieux. C'est d'ailleurs de l'un d'entre eux qu'est venu le déclic. Laurent Caya, PDG de la manufacture d'Histoire de Pont.
En fait, on imprime le magazine du Ritz, Place Vendôme. Bon, ils ont une très, très belle revue. Et ma cliente me disait, oui, j'ai mon directeur général. Il me dit que peut-être le papier, ça peut être conducteur. Donc, bon, en fait, il y a très, très peu de risques pour que vous attrapiez le coronavirus ou un microbe sur du papier. Vous avez beaucoup plus de risques sur un clavier, du plastique, sur du métal, sur un téléphone portable, sur une poignée de porte. Voilà, nous, le papier, ça supporte pas beaucoup, enfin ça rentre pas, c'est pas un vecteur de transmission du coronavirus ou d'autres microbes en général. Mais l'idée, c'était quand même de rassurer les gens, parce que je pense que les gens ont besoin d'être confortés, d'être rassurés dans l'utilisation de ce beau média qu'est le papier.
Pour rassurer leurs clients, donc, dans l'usage des catalogues, menus, dossiers de presse ou invitations qu'ils leur fournissent, Laurent Caya et ses équipes font venir du nord de l'Europe un vernis antibactérien qu'ils proposent d'appliquer sur leurs impressions.
On dépose un vernis, mais qui n'est pas... Alors, il est antibactérien au sens où les bactéries ne peuvent pas accrocher. Hein, il va glisser dessus, quoi. Donc, c'est pour empêcher que un virus ou un microbe ou des bactéries en général accrochent sur le support.
La moitié des machines de l'usine de Bresson sont désormais équipées pour appliquer ce vernis, explique Laurent Caillat, qui ne s'attend pour autant pas à ce qu'il révolutionne ses ventes.
Ce qui est important, c'est de montrer à nos clients qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on va toujours essayer de trouver des idées, on n'est pas statique. Je dis la vérité, hein, c'est pas que du marketing, mais c'en est un peu aussi, il faut dire les choses. Mais je m'attends pas à ce que ça me quadruple mon chiffre d'affaires. Si c'est le cas, j'en serais ravi, mais je reste lucide. Voilà. Après, c'est simplement un complément de solutions, de savoir-faire qu'on peut apporter à nos contacts et nos clients.
La manufacture d'Histoire de Pont, qui emploie 130 salariés, a réalisé 17 500 000 euros de chiffre d'affaires l'an passé. Cette crise, estime Laurent Caya, va lui faire perdre 30% de son chiffre sur l'année, mais il reste optimiste pour la suite.
Je pense que nous, on est quand même sur une niche, sur un marché particulier. On a réactivé le marché local aussi, parce qu'on a pas mal d'industriels qui nous faisaient... Bon, à qui on prêtait pas beaucoup d'attention puisqu'on était très pris par nos clientèles export et on va dire région parisienne. Mmh. Mais voilà, on a renoué des contacts avec le local aussi pour essayer de faire tourner aussi notre manufacture avec peut-être des éditions plus simples et qui permettent quand même de garder l'activité pour pérenniser en fait tout l'outil de travail et les savoir-faire pour nos équipes.
Des savoir-faire précieux, souligne Laurent Caillat, d'autant plus qu'il en est persuadé, le papier a encore de très beaux jours devant lui.
18h57, Inside, c'est terminé. Mais restez avec nous sur BFM Business pour une soirée exclusivement féminine. Le journal avec Marie Vallogne, Objectif Raison d'être avec Cyrielle Ariel, puis Happy Boulot avec Laure Closier jusqu'à 20h. Et puis rendez-vous dès lundi pour une nouvelle rentrée sur BFM Business, de nouvelles émissions au programme. Quant à moi, je vous retrouve dès vendredi prochain, 18h. Très bonne soirée et excellent week-end à tous.